Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Séisme dans l'église catholique. Les victimes d'abus sexuels commis par des religieux se chiffrent en centaines de milliers en France. Le pape dit son immense chagrin. Vous entendrez la voix des victimes. Apprenons à voler de nos propres ailes. Message d'Emmanuel Macron au 27 avant un sommet européen en Slovénie et juste après sa rencontre avec Anthony Blinken, patron de la diplomatie américaine sur fond de crise des sous-marins. Nous reviendrons sur la prise d'otage à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Deux surveillants séquestrés pendant des heures par un détenu ultra-violent. Vous découvrirez son profil dans ce journal. Il manque toujours des bras dans l'hôtellerie et la restauration. Une vraie tuile à l'heure de la relance. Le patronat met sur la table jusqu'à 9% d'augmentation de salaire pour attirer des vocations. La photo est écœurante. Les plages de Marseille jonchées de détritus après le passage de pluies records et une grève des éboueurs. Reportage dans ce journal. À suivre, Top à Wall Street avec Claire Lemaître. À 22h20, l'invité Éco, Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, qui reviendra sur les rumeurs de rapprochement entre Auchan et Carrefour. Et pour finir, un coup d'œil sur les unes de vos quotidiens demain matin.
Europe 1.
C'est une déflagration sans précédent pour l'Église catholique. Le rapport Sauvé a révélé ce matin l'ampleur des violences sexuelles sur mineurs au sein de l'Église. Des centaines de milliers de victimes à la hauteur du choc. La douleur et la colère de François Deveau, figure de la libération de la parole des victimes.
Vous êtes une honte pour notre humanité. Vous avez piétiné par votre comportement l'obligation de droit divin naturel, de protection de la vie et de la dignité de la personne, alors que c'est l'essence même de votre institution, en attendant que la rédemption vous traverse éventuellement un jour. Le mieux que vous auriez à faire serait encore de vous taire et de commencer à vous exécuter avec ardeur et célérité. Vous devez payer pour tous ces crimes.
Le pape François dit son immense chagrin à la découverte de ces chiffres accablants pour l'institution. Virginie Riva, vous avez assisté ce matin à la remise du rapport Sauvé. C'est évidemment la première chose qui frappe, Virginie, l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église est sidérante.
Oui, 216 000 mineurs ont été victimes d'agressions sexuelles en France de la part de prêtres et de religieux. Et ce chiffre, il passe à 330 000 si on ajoute les victimes de laïcs, c'est-à-dire toutes les personnes hors clair, travaillant par exemple dans l'enseignement catholique ou dans les mouvements de jeunesse. Alors, difficile de mettre en perspective ce chiffre, car aucun pays n'a entrepris le même travail, à l'exception des Pays-Bas, où il y avait plus de victimes encore, nous a dit le président de la Commission. En France, l'Église catholique est hors de la famille ou des cercles amicaux, le milieu dans lequel la prévalence des agressions sexuelles est la plus élevée, 3 fois plus qu'à l'école publique. Le rapport met surtout en évidence le silence de l'Église. Jean-Marc Sauvé a parlé d'indifférence cruelle de celle-ci vis-à-vis des victimes, au moins jusque dans les années 2000.
Il y a une responsabilité de caractère global et systémique parce que l'Église n'a pas su voir et entendre, elle n'a pas su capter les signaux faibles. Et donc, ces agressions ont pu se poursuivre. Ça, c'est le premier travail. Et puis, la deuxième chose qu'on demande à l'Église, c'est d'engager un travail d'indemnisation, de réparation. Et cette indemnisation, ça n'est pas un don, ça n'est pas une libéralité qui serait consentie aux victimes, c'est un dû.
La commission indépendante qui a rédigé ce rapport ne s'arrête pas aux chiffres. Virginie, elle préconise des changements profonds dans le fonctionnement de l'Église.
Oui, Jean-Marc Sauvé pointe la responsabilité de l'Église à la fois dans son mode de gouvernance, mais aussi dans ses enseignements. Il lui demande d'évoluer. Il préconise notamment une réforme de son droit interne, que l'évêque ne concentre par exemple pas tous les pouvoirs, puisqu'il est celui qui nomme les juges du tribunal canonique et qui applique en même temps les peines à ses prêtres, que le secret de la confession ne soit plus opposé à l'obligation de dénoncer les prêtres criminels, que des laïcs, hommes et femmes, soient intégrés dans les instances dirigeantes de l'Église. Des préconisations également sur la formation dans les séminaires, sur la nécessité d'entretien annuel de tous les membres de l'Église, un peu comme dans le privé. Jean-Marc Sauvé qui lie également ses abus à la toute puissance de l'autorité du prêtre. prêtre. L'identification du prêtre au Christ est un problème, a-t-il même précisé, ajoutant à la longue liste des causes d'abus le tabou autour de la sexualité.
330 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique. Virginie, vous avez rencontré l'une d'entre elles. Véronique Garnier avait 13 ans lorsqu'elle a été agressée.
Pour vous, c'est un chiffre. Pour moi, c'est quelque chose en moi qui est d'une douleur inouïe. Je ne suis pas étonnée. Je suis soulagée que des personnes de l'extérieur à l'Église aient osé, aient le courage, l'honnêteté de dire voilà, la vraie réalité. Et je crois qu'aujourd'hui est historique. Parce qu'on ne pourra plus nous dire qu'on salit l'Église, qu'il faut tourner la page, que c'est pas si grave que ça, et puis c'est du passé, et puis aujourd'hui il n'y en a plus. Voilà. On ne pourra plus nous dire ça, c'est plus possible.
Ce n'est plus possible, martèle cette victime. La conférence des évêques de France a dit sa honte, elle demande pardon. Depuis son arrivée à Strasbourg, l'archevêque Monseigneur Luc Ravel s'est engagé dans la lutte contre les violences sexuelles. Il avait déjà pu identifier de nombreuses victimes, mais il reste abasourdi en découvrant l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église.
Je reçois aujourd'hui comme un tsunami ces masses de souffrances accumulées. Derrière ces chiffres hallucinants, des personnes, des visages. Je sens qu'un choix est devant moi, devant chaque chrétien, chaque prêtre, chaque évêque. Soit nous fermons les yeux et nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin tranquille et surtout dans l'entre-soi. Soit nous encaissons le coup, terrifiant, et nous nous décidons à avancer ensemble, mais plus comme avant. Si nous minimisons ce rapport de la SIAZ, l'Église en France n'a plus d'avenir, sinon sous la forme d'une petite secte moralisatrice.
Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, avec Mélina Fachin. Les fidèles s'étaient préparés à des conclusions accablantes. Nous avons recueilli leurs premières réactions à la sortie de deux églises parisiennes.
Il faut qu'on en parle, il faut qu'on l'assume. C'est dur à entendre, c'est décevant. Mais je suis heureuse que vérité se fasse et que la lumière se fasse pour que dans le futur, on puisse envisager les choses autrement.
Je pense que l'argent ne répare pas. C'est une démarche au moins de reconnaissance de la faute de l'Église. Elle a été aveugle, elle a été dans le déni, elle a manqué d'accompagnement, d'écoute, d'attention. Voilà, donc il y a une vraie solidarité que je crois est nécessaire de la part de toute l'Église.
Je félicite l'Église d'avoir fait ce travail, comme il a été fait dans d'autres pays. C'est un travail difficile, mais nécessaire. On ne doit plus accepter une souffrance silencieuse. Ça ne doit plus jamais arriver.
Voilà pour ces premières réactions de catholiques pratiquants au micro d'Arthur Pereira et d'Harold Caron. Les premières mesures de la conférence des évêques de France seront annoncées le mois prochain. Notez ce rendez-vous. Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, sera l'invité d'Europe 1 demain matin à 8h10.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Avant de songer aux alliances, pensons d'abord à notre indépendance. Après son tête-à-tête avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, Emmanuel Macron vient porter ce message à ses partenaires européens. À peine arrivé ce soir en Slovénie pour un sommet de l'Union européenne, le chef de l'État est aussitôt revenu sur la crise des sous-marins. C'était tout le sujet de sa rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, Emmanuel Macron, qui appelle les 27 à tirer toutes les leçons de cette crise.
On doit regarder les décisions qui sont prises par nos alliés avec lucidité pour ce qu'elles sont. Il y a eu des choix qui ont été faits dont je ne peux pas dire qu'ils ont été des signaux de considération de la France ou de l'Europe. Qu'il s'agisse de l'Afghanistan, et la France n'est pas premier concerné, ou du sujet Indo-Pacifique. Mais nous avons une histoire qui est plus grande que nous, des engagements historiques. Et donc j'ai aujourd'hui une confiance nourrie par l'histoire, mais nous avons des besoins de clarification et des besoins de réengagement pour pouvoir avancer. Mais je pense que nous, Européens, nous avons besoin aussi d'être clairs avec nous-mêmes sur ce que nous voulons pour nous, pour nos frontières, pour notre sécurité, pour notre indépendance énergétique, industrielle, technologique et militaire, pour pouvoir demander ensuite à nos partenaires ce en quoi on a besoin d'eux ou ce sur quoi on veut s'allier.
Emmanuel Macron avec Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 en Slovénie. On a évité le pire, ce sont les mots d'Éric Dupond-Moretti qui s'est rendu cet après-midi à la prison de Condé-sur-Sarthe près d'Alençon. Le garde des Sceaux qui a félicité les personnels pour leur gestion de la prise d'otages. Pendant plusieurs heures, un détenu a retenu deux surveillants dont l'un a été blessé à l'œil. Le preneur d'otages s'est rendu en début d'après-midi. Vous vous êtes rendu sur place, Sandrine Prioul. Il s'agit d'un détenu ultra-violent.
Effectivement, le bourreau de Colombes, c'est le surnom de ce détenu qui était arrivé il y a quelques jours dans cette prison près d'Alençon qui accueille les lourdes peines, les prisonniers difficiles comme celui-ci. Ce matin, il a prétexté de voir passer à la laverie et s'est armé d'une fourchette qu'il a donc réussi à tenir en joue deux surveillants. Il aura fallu l'intervention du RAID pour qu'il se rende, explique Yves Bidet, le directeur de la prison.
La sécurité ici, elle est imposante. Alors on aurait pu en effet faire plus, mettre quelqu'un en quartier d'isolement, en quartier disciplinaire. Il ne nous avait pas montré qu'il était prêt à passer à l'acte. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de panser les plaies traumatiques des personnels, de retravailler avec eux, de remettre en marche l'établissement dès demain.
Voilà, des surveillants encore sous le choc et qui interrogent leur propre dirigeant à la suite de cette prise d'otage d'un détenu mu par l'énergie du désespoir puisqu'il avait été condamné à perpétuité. Eux veulent une prise en compte bien spécifique des lourdes peines.
Je suis condamné à perpétuité, je n'ai plus rien à perdre. Donc moi je ferai ce qu'il y a à faire. Voilà. Et en général, c'est ce qu'ils disent. Voilà.
Voilà, plus de moyens d'effectifs face aux détenus dangereux. Voilà ce que d'une seule voix demandaient tous les syndicats pénitentiaires ce soir.
Sandrine Prioul à la prison de Condé-sur-Sarthe pour Europe 1. Des milliers de salariés, chômeurs et étudiants ont défilé aujourd'hui partout en France pour défendre le pouvoir d'achat. Plus de 160 000 manifestants selon la CGT. La hausse des salaires au cœur des revendications. L'hôtellerie-restauration n'est décidément pas prêt d'oublier le Covid. Après une activité réduite à néant, au pire de la crise, c'est maintenant un cruel manque de bras qui pénalise les bars et les restos à l'heure précisément où les clients reviennent en nombre. Pour attirer de la main-d'œuvre, le syndicat patronal du secteur, l'UMI, met la main à la poche. Il propose jusqu'à 9% d'augmentation de salaire. Thierry Grégoire est le président de la branche des saisonniers de l'UMI.
C'est vrai qu'on a des problématiques depuis 10 ans d'attractivité d'emploi non pourvu et qui a été renforcée, décuplée par 10 mois de Covid. Maintenant, nous, on a aussi aujourd'hui une grille de salaire qui est totalement obsolète depuis 2018, l'augmentation de l'inflation, les différents SMIC. Donc on doit aujourd'hui la renégocier. Donc on pose ces éléments de négociation. Donc la grille de salaire qui aujourd'hui doit être entièrement revue avec un plafond plancher de négo entre de 6% à 9%. On peut poser effectivement des éléments à la rémunération, c'est aussi l'épargne salariale, c'est l'intéressement, ça peut être de la prime d'activité, ça peut être le 13e mois, il n'y a aucun sujet tabou. Il faut qu'on redonne aussi du souffle à notre secteur d'activité, cette attractivité. Si demain nous ne faisons plus venir de jeunes dans notre secteur d'activité, à qui nous transmettrons nos entreprises ?
Thierry Grégoire avec Romain Desarbres dans Europe Midi. C'est un spectacle dont les Marseillais se seraient bien passés au lendemain des pluies records qui ont inondé la ville. Les plages de Marseille ressemblent maintenant à un gigantesque dépotoir. Des tonnes de détritus ont été charriés jusqu'à la mer. Conséquence des pluies donc et de la grève des éboueurs sur la célèbre plage du Prado. Reportage Frédéric Michel.
On ramasse beaucoup de canettes, du plastique.
Comme Michel, toute la journée, de simples citoyens marseillais sont venus nettoyer les centaines de mètres de plage souillés. Clémence n'a pas hésité une seconde.
J'ai vu les images en fait ce matin sur les réseaux sociaux de la plage et je me suis dit à ma pause, je viens une heure ramasser. C'est une catastrophe écologique qui est en train de se produire suite à une semaine de grève de poubelles plus inondations. Moi je fais le tri mais là c'est impossible entre les algues, enfin tous les déchets, ils sont éparpillés en mille morceaux.
Un filet accroché derrière une embarcation, les marins-pompiers tentent de récupérer au large le plus gros des déchets. Serge est écœuré et ne décolère pas.
C'est une honte. Une honte des boueurs surtout, c'est eux qui foutent la merde. Les gars ils travaillent 25 heures, ils gueulent parce qu'on leur donne 28 à faire. Tout ce qui est les déchets tout qui sont partis au large jusque là-bas, alors on voit à peu près la trace, c'est pas récupérable.
Pour ce couple de Marseillais, les causes sont plus profondes.
Non, c'est pas que la grève. La grève a été un élément qui a fait qu'accélérer ou amplifier. Mais sinon, c'est un problème de fond. Comportement, gestion. Dans la gestion du tri sélectif, on a quand même l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la mairie. Voilà, c'est un ensemble.
Pointer du doigt les différentes collectivités pour leur inaction. Aujourd'hui, pour certains habitants, c'est l'image de Marseille qui a été salie. Sur les plages du Prado, Frédéric Michel, Europe 1.
Et des élus dénoncent à Marseille un écocide. Dans l'Aude, un collège de 900 élèves fermé pour une semaine après une trentaine de cas de Covid. Les élèves du collège Joseph Deltey de Limoux devront donc suivre tous leurs cours à distance à partir de demain et pour une semaine. Hier, à la même heure, vous étiez sûrement en train de vous demander pourquoi vous n'arriviez plus à accéder à Facebook, à Instagram ou à WhatsApp. Les trois réseaux sociaux ont subi l'une des plus importantes pannes de l'industrie et de l'histoire d'Internet. Une mise à jour défectueuse a déconnecté les serveurs Facebook pendant 7 heures. Parmi les premiers à identifier la panne, Cloudflare, une entreprise spécialisée dans les réseaux Internet, Pour Boris Lecoeur, patron France de Cloudflare, les internautes eux-mêmes ont aussi eu leur rôle dans la durée de la panne.
Ce qui est intéressant avec la panne qu'on a eue hier, c'est qu'il y a un amplificateur quasiment de manière exponentielle. C'est nous, c'est les utilisateurs. On voit que l'application n'est pas disponible. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va rafraîchir, on va continuellement rafraîchir sur l'application. Si Facebook n'est pas disponible, on va aller voir sur Instagram. Et finalement, ça va amplifier encore plus l'incident et la panne sur notre DNS, donc qui permet de connecter les utilisateurs vis-à-vis du site Facebook. On a vu un trafic qui a été multiplié par 30 durant cette panne-là, puisque les utilisateurs qui n'arrivaient plus à trouver Facebook, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils cliquaient deux fois plus sur l'application. Et donc ça génère aussi un deuxième effet, qui est que les systèmes, combien même les systèmes vont repartir, ils vont être soumis à une charge telle au démarrage qu'ils vont avoir potentiellement une grande chance de retomber quasiment instantanément.
Boris Lecoeur de l'entreprise Cloudflare, spécialisée dans les réseaux Internet, il répondait à Clément Le Saffre. L'Académie Goncourt a dévoilé sa deuxième sélection pour le prix littéraire français le plus prestigieux. Il reste 8 écrivains en lice pour le Goncourt 2021 qui se voient maintenant soumis à de nouvelles règles. En fait, le jury Goncourt met les points sur les i après une affaire de conflit d'intérêts. François Noudelman, qui faisait partie de la première sélection, n'est autre que le compagnon de l'une des jurées, Camille Laurence. Cette situation ne sera désormais plus possible, Nicolas Caro.
Le jury Goncourt contre-attaque. En plus de la traditionnelle délibération, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue hier pour ajouter deux articles au règlement intérieur. Dorénavant donc, les ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury ne pourront être retenus. Il appartient d'ailleurs à l'académicien concerné d'avertir le jury d'une telle proximité. De plus, il est maintenant officiellement interdit aux jurés qui tiennent une rubrique littéraire dans un média de chroniquer les ouvrages sélectionnés. Tout contrevenant à ces nouvelles règles serait considéré comme démissionnaire, précise l'Académie Goncourt. Ces deux nouveaux articles sont censés éteindre l'incendie polémique déclenché par la présence du compagnon de l'académicienne Camille Laurence dans la première sélection et d'une critique de cette dernière dans Le Monde du livre d'Anne Berest, La carte postale, toujours en lice au demeurant. La troisième et dernière sélection sera dévoilée le 26 octobre. Ils ne seront plus que 4.
Merci Nicolas. Et parmi ces 4 finalistes, le lauréat ou la lauréate du prix Goncourt 2021 sera dévoilé le 3 novembre. Ce sera le tout premier film tourné dans l'espace. Une actrice et un réalisateur russe sont arrivés aujourd'hui à bord de la Station Spatiale Internationale pour y tourner le premier film de l'histoire en orbite. L'équipe russe devance même un projet américain concurrent avec Tom Cruise. Le doyen des Français est mort à l'âge de 112 ans en Martinique. Né en 1909 et père de 3 enfants, il avait travaillé comme docker et marin-pêcheur. Si ça ne tenait qu'à lui, avait-il confié. Il se disait même prêt à vivre jusqu'à 200 ans. Voyons le temps maintenant pour ce mercredi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
La météo avec vous, Marlène Durès. C'est demain moins de pluie et plus d'éclaircies. Et
oui, des éclaircies qui vont revenir en force par l'ouest dès demain matin grâce à l'anticyclone qui va venir se positionner sur le golfe de Gascogne. Bon, évidemment, il faut mettre de côté les grisailles du matin là, sur la côte aquitaine, les bandes brouillards dans le Limousin, en Auvergne. On a aussi de l'humidité qui va rester bloquée au pied des Pyrénées qui va donner un ciel couvert. Mais bon, les éclaircies, peut-être même un franc soleil s'impose.
Peut-être, peut s'imposer. Juste peut-être.
Ça dépend des régions en fait. S'impose plus ou moins tardivement. Donc ça nous fait une belle moitié ouest et on inclut l'Île-de-France. Dans l'après-midi, ces belles éclaircies vont gagner du terrain jusqu'en Auvergne, en Bourgogne, jusqu'au Lyonnais, mais dans les régions du Grand Est, en Franche-Comté, dans les Alpes du Nord, là, le ciel va rester chargé toute la journée avec encore quelques pluies. Et retour de la perturbation, celle d'aujourd'hui, oui, on va la retrouver le long des frontières belges et luxembourgeoises, donc par là-bas. Du ciel gris, des pluies. C'est vraiment les départements qui bordent les frontières. De la Provence au Roussillon, ciel bleu. Bon, il y a pas mal de vent quand même. Les maximales en journée ne dépasseront pas les 13 à 19 degrés. 13 à Metz pour la minimale. Il fera 17 à Paris. Ça monte à 19 du côté de Nantes ou à Agen. On atteint les 20 degrés dans le sud-ouest, midi toulousain, Aquitaine. Et puis on peut les dépasser en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 23 degrés à Nice.
Merci Marlène. Rendez-vous à minuit pour un dernier point météo avec vous. Dans un instant, Top à Wall Street avec Claire Lemaître, l'invité éco. Nous serons avec Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. Il reviendra sur ces rumeurs de rapprochement entre Auchan et Carrefour. A tout de suite.
Même. Europe Nuit.
Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
C'est Top à Wall Street sur Europe 1 avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
Les investisseurs ont retrouvé le moral après une séance orageuse hier à Wall Street. Les géants de la tech sont particulièrement en forme ce soir.
Oui, ça remonte avec un gain de 0,92% à 34 315 points pour le Dow Jones. Le Nasdaq reprend également 1,25%. Alors ça remonte surtout pour les géants de la tech après leur gros coup de faiblesse hier. Apple rebondit de 1,3%, Microsoft plus 2%, Amazon plus 0,9%. Ça va mieux aussi pour Facebook après la panne mondiale de ses services qui a entraîné un plongeon du titre de 4,8% hier. Là, on reprend un peu plus de 2% ce soir. Mais l'actualité reste tendue pour le groupe de Mark Zuckerberg. Des sénateurs américains promettent ce soir de mieux réguler Facebook après l'audition d'une lanceuse d'alerte, une ancienne salariée de Facebook très critique sur l'influence du réseau, notamment sur les plus jeunes. Un mot du pétrole qui continue sa progression au plus haut depuis 7 ans. Le baril de brut américain WTI prend encore 2% ce soir, 79,14 $.
Après 3 séances consécutives dans le rouge, le marché parisien lui a repris 1,5% ce soir.
Plus 1,52% précisément pour le CAC 40 qui clôture à 6 576 points. On met donc comme à New York les inquiétudes de côté, en tout cas pour aujourd'hui. Les valeurs bancaires signent les plus fortes hausses du jour. Crédit Agricole grimpe de 5,7%. BNP Paribas et Société Générale montent de plus de 4%. Le géant pétrolier Total Energy gagne 3%, lui, dopé encore une fois par la hausse des cours du brut.
Et la séance a été beaucoup plus difficile en revanche pour le titre BIC.
Oui, c'est du rouge pour BIC, moins 6,4%. Un actionnaire a vendu plus de 2 millions de titres du fabricant de stylos et de briquets. Ça représente 4,6% du capital. Et puis, séance mouvementée aussi pour Orpea. Selon Challenge, une perquisition a eu lieu au siège du groupe de maisons de retraite au mois de mars. Perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire pour complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé. Le titre perd 4,5%. Les marchés européens ont effacé leurs pertes d'hier. Londres et Francfort remontent de 1% ce soir. Plus 1,5% pour Madrid, plus 1,9% pour Milan, plus 1,8% pour Amsterdam. Et le CAC 40 reprend 1,5%, 6 576 points.
Merci Claire Lemaître. Le monde de la grande distribution bruisse de rumeurs persistantes d'un rapprochement entre deux enseignes célèbres, deux enseignes de poids, Carrefour et Auchan. L'invité éco ce soir, Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Olivier Dauvert.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous êtes un des grands spécialistes de la grande distribution et justement, dans ce secteur, il y a une rumeur. Carrefour et Auchan discuteraient. Alors, des discussions qui auraient lieu depuis plusieurs mois, a priori depuis avril-mai, ils discutent de quoi ? Eh bien, de tout. Et pourquoi pas d'un éventuel rapprochement ? Ça vous semble possible ?
Ça semble malgré tout peu probable pour deux raisons. D'abord parce que stratégiquement, je ne suis pas persuadé qu'un convalescent et un mal en point aient intérêt à ne faire qu'un. Ça n'a jamais fait un athlète de haut niveau. Et puis ensuite, deuxièmement, la famille Mullier, pendant le week-end, a quand même pris publiquement parti contre cette opération. On a vu le patriarche Gérard Mullier qui a écrit à La Voix du Nord. Et puis on a vu Barthélémy Guilin, qui est le président actuel, j'allais dire, de l'association familiale Mullier, c'est-à-dire celle qui contrôle le capital, qui tous les deux ont compris la plume pour dire qu'ils ne voulaient pas être rachetés par quiconque. Alors, Barthélémy Guilin, qui est le patron opérationnel...
Et pourtant, ce qui se raconte, c'est que c'est bien Auchan qui serait allé taper dans un premier temps à la porte de Carrefour. Alors, pour discuter de tout et de rien, semble-t-il, au démarrage. Mais ce serait dans ce sens-là.
Mais tout le monde parle avec tout le monde dans ce métier parce que c'est un secret pour personne que la distribution aujourd'hui, la grande distribution est à la croisée des chemins. Elle est menacée à la fois par la fragmentation de la consommation avec l'émergence de nouveaux petits acteurs, avec l'arrivée de grandes plateformes numériques. Donc forcément, quand vous avez peur pour votre avenir, vous essayez de discuter avec ceux qui, comme vous, ont peur de leur propre avenir. Donc tout le monde discute avec tout le monde de petites coopérations comme peut-être de grandes alliances. Et là, ce qui est sorti, évidemment, c'est l'hypothétique grande alliance entre Auchan et Carrefour.
Il faut dire aussi que Auchan va mal, voire très mal. Le groupe n'arrive pas à trouver une solution. C'est celui qui a les plus grands hypermarchés en France, qui avait peut-être le moins bougé ou qui a peut-être le moins voulu bouger ces derniers temps.
Auchan était persuadé, jusqu'à une période encore trop récente, qu'il n'y avait pas de problème avec ce qu'on appelle les grands hypermarchés. Pourtant, c'est évident que les grands hypermarchés ne font plus rêver le consommateur du XXIe siècle, qu'il y a une espèce de désamour. Et donc, ça y est, Auchan prend conscience que l'hypermarché d'avant, il faut peut-être le revoir de fond en comble. Mais il y a du retard qui a été pris. Ça fait déjà 9 ans que, en France, je dis bien en France, les hypermarchés Auchan voient leurs ventes baisser. Donc, Auchan n'est pas une enseigne qui est en très bonne forme en termes de commerce. Alors, ils font de la gestion, donc ils sont arrivés à sortir leurs résultats. Ça veut dire qu'ils sont toujours rentables, il n'y a pas de péril en la demeure. Mais pour autant, dans une perspective d'avenir, le chemin qui s'offre à Auchan, il est quand même semé de grosses embûches.
S'il est semé de grosses embûches, il faut bien trouver une solution. Mais de ce que j'entends, la solution n'est peut-être pas un rapprochement entre deux mastodontes.
Ben, déjà, on peut se demander pourquoi Carrefour aurait intérêt à rajouter à ses propres problèmes les problèmes d'Auchan. D'ailleurs, le jour où cette rumeur est sortie, l'action en bourse elle a baissé. Pourquoi ? Parce que les actionnaires, ils n'en veulent pas vraiment. Ils préféreraient voir Carrefour investir dans le numérique, le digital, les courses de demain, plutôt que d'investir dans les hypermarchés d'hier. C'est aussi simple que ça. Donc, quel est l'intérêt stratégique de Carrefour de se rajouter 120 hypermarchés dont une moitié sont des très grands hyper ? Honnêtement, cet intérêt, il est quand même très faible. Alors bien sûr, il y a l'intérêt de la taille. C'est être le plus gros de la classe. Et ça, c'est le syndrome en général auquel cèdent tous les patrons de distribution. Mais aujourd'hui, je suis...
Surtout qu'on sait que du côté de chez Carrefour, ils vivent assez mal d'être deuxième derrière Leclerc. C'est un peu un malaise pour ce groupe qui a été historiquement premier.
Mais ils sont deuxièmes en France, mais ils restent néanmoins le premier commerçant français. Carrefour, c'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une fois et demie facile, plus gros que Leclerc. Donc, mais malgré tout, Alexandre Bompard est persuadé que la distribution française n'est pas assez concentrée, qu'il va y avoir encore un round de consolidation, comme l'on dit, et que ben, il vaut mieux en être, parce que si c'est quelqu'un d'autre lui qui le fait, ça veut dire que pour le coup, Carrefour aura une taille qui sera désormais plus faible que ses concurrents. Donc c'est ça qui l'anime, c'est la conviction qu'il va y avoir une opération, donc il préférerait quand même en être.
Mais Carrefour est un groupe qui va beaucoup mieux, qui est en convalescence, comme vous disiez il y a un instant, Olivier Devers, et qui investit, c'est-à-dire qu'ils sont en train de regagner des places dans le marché de discount avec une marque que l'on ne connaît pas très bien, mais qui s'appelle Supéco, avec un gros objectif, hein, 400 magasins d'ici à 5 ans. Ils ont aussi investi dans la livraison de courses dans les grandes métropoles en 15-20 minutes, puisqu'ils ont pris une grosse participation dans un groupe qui s'appelle Cajou. Est-ce qu'ils sont à nouveau dans le match ?
Oui, ils sont dans le match pour ce que vous avez évoqué, qui sont des signes de dynamisme, parce que c'est de la création, c'est nouveau, mais aussi parce qu'ils ont compris enfin qu'en magasin, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la chasse aux irritants. C'est toutes ces petites embrouilles qui embêtent le consommateur parce que les prix ne sont pas affichés, parce que la promotion n'est pas disponible, parce qu'il y a des ruptures, que sais-je encore. Et là, en tous les cas, pour la France, il y a un nouveau patron qui est arrivé il y a un an de cela, qui s'appelle Rami Bettier, et qui est obsédé, je pèse mes mots, qui est obsédé par ce qui se passe sur le carrelage dans les magasins. C'est-à-dire qu'il faut absolument enlever tous ces petits irritants qui vous agace quand vous êtes client. Et donc, j'allais presque dire que cette chasse aux irritants, c'est plus important que d'aller investir dans la start-up des années qui viennent, parce que ça va concerner plus de consommateurs pour plus d'achats, et donc ça aura finalement plus d'effet sur le retournement positif de Carrefour.
Puisqu'on a rarement autant parlé de la grande distribution, de la distribution de proximité au moment de cette crise du Covid, tous les groupes en sortent bouleversés puisque nos habitudes ont changé. Le drive notamment s'est imposé, on sait que les clients qui passent au drive généralement y restent et ne reviennent pas totalement en magasin. C'est un secteur qui est à l'aube d'une révolution majeur, ne serait-ce qu'au niveau du nombre d'employés dont il aura besoin demain.
J'aurais presque tendance à dire que c'est plus même un Big Bang qu'une révolution. Parce qu'un Big Bang, c'est le fait de quitter un État qui était bien stable, normé, pour en retrouver un qui sera très différent. Et on est dans cette phase d'entre-deux où on ne sait pas bien, en gros, ce qui va en sortir. On sait juste que ça ne ressemblera pas avant, qu'il y aura plus de drive. Donc ceux qui ne sont pas bons en drive, évidemment qu'ils doivent s'inquiéter. Il y aura plus de courses livrées à domicile parce qu'on est en train de trouver des solutions pour que ça coûte moins cher. On a un Hollandais qui arrive par le nord de la France qui s'appelle Picnic, qui est en train, lui, de bousculer les acteurs traditionnels de la livraison à domicile. On a aussi, nous les consommateurs, une volonté de fractionner nos achats pour aller à chaque fois vers quelqu'un qui est le plus spécialiste possible. Donc ces grands généralistes que sont les grands distributeurs, ben, ils sont aussi menacés par notre propre comportement d'achat. Donc on est en train de quitter un monde qui était finalement stable depuis les années 60, l'hypermarché, le supermarché, pour trouver quelque chose dont on a encore de la peine à définir tous les contours. C'est à la fois angoissant quand on est acteur, mais vous l'imaginez, fascinant quand on est spectateur.
Eh bien, merci pour tous ces détails, Olivier Dauvert, grand spécialiste de la grande distribution qui était avec nous ce soir sur Europe 1. Et nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci Emmanuel, on vous retrouve également demain 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayac. Votre invité sera Florent Ménégaud, le patron de Michelin.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec un rapide coup d'œil sur les unes de la presse, la plupart des quotidiens reviennent pleine page demain matin sur leur rapport sur les violences pédophiles dans l'Église. Impardonnable, titre Libération. L'Église sous le choc de la vérité, c'est la une du Figaro. Les chiffres révélés donnent le vertige, ils révèlent un mal systémique. C'est un état des lieux accablant, titre Ouest France, ce rapport sur les violences sexuelles au sein de l'Église catholique. Une véritable déflagration, conclut l'opinion. Enfin, le quotidien catholique La Croix partage deux sentiments, la douleur et la honte. Les unes des journaux demain, c'est aussi la grosse sortie ciné maintes fois reportée, le nouveau 007. Un résumé de la critique de 20 minutes à la une du quotidien. Il y a du bond et du moins bond. Vous en faites ce que vous voulez. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir.
Vous
sans
venez
commentaire.
Me rejoindre pour la libre antenne. Je ne sais pas si vous êtes un fan de 007.
Je fus.
Vous fûtes.
Je fus lorsque j'étais petit. J'attendais avec impatience la sortie de 007.
Et c'est fini tout ça.
Eh oui, que voulez-vous, nous vieillissons, nous avons d'autres fantasmes ensuite.
Bien sûr.
Vous noterez que je me suis habillé avec le survêtement de la Belgique ce soir.
Ah oui, donc rien à voir avec le smoking de James Bond.
Rien à voir, c'est juste, je commence à conjurer le sort pour les Belges.
Oui, vous êtes déjà dans une autre actu de demain qui ne se passe pas au cinéma.
Exactement.
Mais plutôt dans les stades. Oui, oui.
Exactement. On se retrouve tout à l'heure,
à
23h pour votre flash. À tout à l'heure.